Le magazine des Nations Unies.
La Belgique pour l'appropriation par la société civile congolaise du débat politique et du processus électoral. C'est en tout cas le sens d'un accord de financement signé mardi dernier à Kinshasa entre l'ambassadeur belge et les responsables du bureau conjoint pour les droits de l'homme et d'Avocats sans frontières. Dans ce magazine, vous suivrez tour à tour le diplomate belge, le directeur du bureau conjoint, également le coordonnateur d'Avocats sans frontières. Inquiétude de la MONUSCO face à la tension qui monte à l'approche de la date de la fin du mandat du président Joseph Kabila le 19 décembre prochain. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo lance un appel aux acteurs politiques pour privilégier l'intérêt du peuple congolais. Enfin, lever la main pour la prévention, c'est en tout cas sous ce thème qu'a été placée la journée mondiale du sida. Cette journée est célébrée le 1er décembre de chaque année. En RDC, près de 33% des patients ont accès aux ARV. D'autres informations intéressantes sur cette journée et la maladie avec un responsable de l'ONU Sida RDC tout à l'heure. Et voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies. Nous lisons dans le sommaire, l'ambassade de Belgique en RDC a signé mardi dernier un accord de financement avec, d'un côté, le bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme et de l'autre, l'ONG internationale Avocats sans frontières, un accord de plus de 2 millions d'euros pour impliquer la société civile congolaise dans le débat politique et le processus électoral. Alors au micro d'Honoré Missenga Kalala, l'ambassadeur belge en RDC, monsieur Bertrand Krombroeg explique les objectifs de ce financement. Suivez.
Et nous venons de signer un accord, une convention, d'une part entre le donateur belge et l'Avocat sans frontières, et d'autre part entre le donateur belge et le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, pour aider les personnes qui veulent s'engager dans les débats politiques, mettre sur pied des débats, alerter les électeurs de l'importance des élections et de participer, aussi encourager tout le monde à s'informer des différentes positions des partis politiques et autres personnalités qui se présentent aux élections, les sensibiliser à l'importance d'être partie prenante dans le débat électoral de manière à ce que ces élections, lorsqu'elles produiront un résultat, lorsqu'elles produiront des partis élus ou un président élu, que cela correspondra à une véritable volonté populaire.
Après le diplomate belge, les deux co-signataires de l'accord, messieurs Maria José Aranas du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme et Dominique Camoindou se sont aussi exprimés tour à tour par rapport à ce financement. Toujours au micro d'Honoré Missenga Kalala.
Je voudrais remercier notre partenaire du gouvernement belge et aussi les autres partenaires qui donnent l'appui au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce programme, c'est très important, c'est encadré dans la promotion des droits civils et politiques dans ce contexte à la RDC. Il y a une composante de protection qui est très importante, surtout pour les défenseurs des droits de l'homme et les autres individus qui sont menacés à ce moment. Et avec notre partenaire des Avocats sans frontières, on va contribuer à ou améliorer le climat pour les dialogues et les élections crédibles et apaisées.
Dans le cadre de ces financements, nous allons travailler sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs de la société civile afin de garantir le développement du débat démocratique. Nous allons travailler avec les organisations de la société civile pour les renforcer afin qu'ils puissent veiller à garantir les droits des populations sur la liberté d'expression, sur les processus électoraux, afin qu'il y ait une bonne participation et travailler aussi sur la prévention des protection, la prévention en matière des violations des droits de l'homme pour permettre aux populations et aux animateurs de la société civile de pouvoir jouer leur rôle et de pouvoir bien s'exprimer librement.
Autre fait d'actualité, à l'approche de la date du 19 décembre, donc à presque deux semaines, la MONUSCO interpelle les acteurs politiques congolais à une question posée mercredi au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Le porte-parole de la mission onusienne a invité les acteurs politiques congolais à privilégier l'intérêt supérieur de leur peuple. Les propos de Félix Prosper Bass étaient recueillis par Jean-Pierre Elali Coco.
L'appel de M. Don Perriello n'est rien d'autre que l'expression de notre crainte à tous relative à cette tension qui prévaut aujourd'hui entre tous les acteurs politiques et que tout le monde aujourd'hui s'évertue à décrisper cette situation-là, notamment la SENCO, encore une fois, que je loue au passage pour les efforts qui sont actuellement menés dans le cadre de la réconciliation. Ce n'est pas à la MONUSCO d'apporter la solution, mais la MONUSCO dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat tel que donné par la résolution 2277. Nous nous activons tous les jours, notamment le représentant spécial, mais tous ces gens-là viennent tout simplement pour tirer, sonner l'alarme et interpeller les acteurs politiques congolais, parce qu'il s'agit d'eux, qu'ils tiennent en compte un seul intérêt, l'intérêt supérieur du peuple congolais.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Vous le savez, la journée mondiale du sida est célébrée chaque année le 1er décembre et cela dans tous les pays de la planète. Alors cette année, c'est sous le thème « Levons la main » que la journée a été placée. L'ONU sida est toujours au centre de toutes les activités organisées autour du combat contre la pandémie du sida. Dans cette rubrique, c'est messieurs Eladji Oseni, conseiller en information stratégique à l'ONU sida RDC, que le magazine des Nations Unies a approché. Il est interrogé sur cette journée par Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Eladji Oseni, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Ce 1er décembre, ça sera la journée mondiale de la lutte contre le sida. Quel est l'enjeu de cette journée?
Cette journée a la particularité d'être la toute première journée de lutte contre le sida après le lancement des objectifs de développement durable.
C'est sous quel thème que cette journée est placée?
Lever la main pour la prévention. En fait, nous demandons à toute la population mondiale de s'engager davantage après que les chefs d'État et les communautés se sont engagés à l'Assemblée générale des Nations Unies pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. Il faudrait que tout le monde lève la main, tout le monde s'engage pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif ambitieux de mettre fin à l'épidémie.
Oui, lever la main, c'est juste un geste corporel, mais dans le cadre de cette journée, quelles sont les actions concrètes que l'ONU SIDA RDC préconise à cet effet?
Effectivement, lever la main ici pour symboliser cet engagement va se traduire concrètement par un certain nombre d'événements, parmi lesquels il y a d'abord la mobilisation de tous les leaders d'opinion, des autorités politiques, pour une fois encore manifester leur solidarité vis-à-vis des personnes qui ont été infectées, des familles qui ont été infectées par l'épidémie et également aussi la mobilisation de toutes les agences des Nations Unies qui travaillent particulièrement avec l'ONU SIDA, que l'ONU SIDA représente en termes de programme. Et comme vous le constatez, depuis près d'une semaine, la MONUSCO, civil, contingent militaire, tous sont mobilisés dans les casernes, partout où nous intervenons venant dans le pays pour marquer cette journée avec la sensibilisation, on donne les informations de qualité, on donne aussi les produits de prévention et au même moment aussi on encourage tout le monde à aller se faire dépister pour pouvoir connaître son statut et se faire protéger si cette personne n'est pas infectée et au cas où il est révélé que quelqu'un est infecté, la personne puisse accéder immédiatement au traitement conformément à la nouvelle politique de l'ONU SIDA.
Oui, vous parlez du traitement, mais Monsieur Eladji, selon son dernier rapport, l'ONU SIDA annonce que 18,2 millions de personnes bénéficient d'une thérapie antirétrovirale. Quelle est la situation particulière de la RDC par rapport à ça?
En RDC, aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 135 000 personnes qui sont sous traitement.
Oui, ça représente à peu près combien en pourcentage?
Ça représente à peu près 33% des personnes qui sont infectées. Mais dans cette nouvelle approche du gouvernement de la RDC, il est attendu quand même que d'ici 2020, on puisse arriver à mettre sous traitement 90 personnes de personnes qui sont infectées. Toute une campagne de dépistage est lancée tant au niveau des hôpitaux, des cliniques, mais aussi à travers les organisations à base communautaire. Nous y travaillons.
L'objectif est d'atteindre 90% des patients.
Tout à fait. L'objectif est d'arriver à 90% des patients pour pouvoir faire en sorte que le traitement nous aide à contribuer à la prévention. Donc l'objectif, c'est que toute personne qui est infectée, une fois qu'il sera sous traitement, non seulement se portera mieux, mais aussi va participer au développement de l'économie, mais cette personne, grâce grâce aux médicaments, ne sera plus véritablement en mesure de transmettre le virus aux autres personnes. Et de la même manière aussi, une fois que les mamans sont sous traitement, les enfants qui naîtront de ces mamans quand même auront moins de risques de se faire infecter.
Dans le même rapport, l'ONU-SIDA souligne que la période d'âge entre 15 et 24 ans est à très haut risque pour les jeunes filles. En quoi consistent ces hauts risques pour les jeunes filles de cet âge?
Avant de répondre à votre question par rapport à ces hauts risques, je tiens quand même à insister sur ça. Effectivement, les jeunes, les adolescents, et particulièrement les jeunes filles de 15 à 24 ans, sont exposées. Les recherches qui ont été effectuées en RDC ont montré que c'est au niveau de cette couche que les nouvelles infections sont en train de se produire. En 2001, on enregistrait environ 1000 nouvelles infections par an au niveau de cette couche de population. Mais je vous dis que tout récemment, on est à 1300. Donc, ça ne fait que s'augmenter. Et maintenant, pour expliquer cette vulnérabilité, les jeunes quittant l'âge d'adolescent pour entrer dans la tranche 15-24 ans, particulièrement les jeunes filles, accèdent à la sexualité sans avoir l'information de qualité, sans prendre toutes les précautions nécessaires. Je pense que le gouvernement a pris la question au sérieux et il y a moins de 3 mois, le gouvernement a lancé une nouvelle stratégie pour lutter contre le VIH au niveau des jeunes, des adolescents, particulièrement au niveau des jeunes filles, pour pouvoir mettre fin à cette pandémie, surtout au niveau de cette couche de population où on constate vraiment l'augmentation de nouvelles infections. Et l'autre question aussi, particulièrement par rapport aux filles, c'est leur morphologie biologique qui les expose à ce risque d'infection qui est assez élevé. L'autre question aussi, c'est lié à la pauvreté, donc les pratiques et les comportements qui sont aggravés par la pauvreté et qui touchent ces couches de population, des jeunes en général, mais particulièrement des jeunes filles qui sont obligées d'entrer dans le groupe de ce qu'on appelle les travailleuses de sexe, les professionnelles de sexe, clandestines généralement, et qui font face malheureusement à des hommes qui ont déjà des prévalences assez élevées. Et au moment où au niveau national la prévalence est à 1,2% et au niveau des hommes c'est 0,6%, mais au niveau des hommes qui fréquentent les travailleuses du sexe, ces clients, la prévalence est élevée, c'est 5 fois la prévalence que nous observons comparée à la population générale. Voilà, ces jeunes filles sont généralement en contact avec ces populations qu'on appelle les populations passerelles, qui ont des prévalences 5-6 fois plus élevées que la population générale.
Et comment l'ONU-SIDA accompagne le gouvernement dans cette nouvelle stratégie?
L'ONU-SIDA accompagne le gouvernement à travers 3 dimensions essentielles. La toute première composante est ce plaidoyer au niveau national, au niveau international, et qui se porte quand même comme garant pour que le peuple congolais, le gouvernement congolais, puisse toujours bénéficier des ressources internationales aujourd'hui évalué à près de 76% du financement de la réponse. Deuxièmement, l'ONU-SIDA contribue dans la collecte, l'utilisation des données statistiques et démographiques fiables qui permettent quand même au gouvernement de faire le suivi et de mieux cibler les populations qui devraient bénéficier des ressources. Et troisièmement, l'ONU-SIDA appuie le gouvernement par des interventions qu'on appelle des interventions de type catalytique, c'est-à-dire les bonnes pratiques et l'appui aux autorités au niveau local, au niveau des villes, au niveau des districts. Nous avons l'exemple le plus palpant qui est l'engagement du gouverneur de la ville de Kinshasa, de Lumumbashi, de l'assemblée provinciale de Maniema qui fait que quand même ça permet de toucher la population à la base afin qu'on puisse vraiment atteindre cet objectif.
Monsieur Aladji Ousseni, merci de votre disponibilité.
En bref, d'abord à Béni, un centre d'encadrement et de promotion de la jeunesse, un don de la MONUSCO dont la remise a eu lieu le 22 novembre dernier au quartier Bangoulou de Béni, dénommé Inua Vijana, qui veut dire en swahili promotion de la jeunesse, entre donc dans le cadre des projets Impact Rapide de la mission des Nations Unies en RDC. Il est alimenté en énergie solaire et pourvu de 4 ordinateurs, 2 imprimantes et d'une photocopieuse scanner. Restons encore à Béni, toujours dans le cadre de ses projets Impact Rapide, la MONUSCO vient de doter les quartiers Boïkiéné et Cassabigno de deux ponts pour un financement évalué à un peu plus de 80 000 dollars américains. Les travaux de construction de ces deux ponts, exécutés par une entreprise locale, ont duré 9 mois. La mise en place de ces ouvrages avait pour objectif de rendre fluide la circulation, mais également faciliter les échanges interpersonnels et des biens, permettre l'accès rapide à des zones enclavées afin d'améliorer la sécurité et la protection des populations de Béni, ainsi que de faciliter les patrouilles conjointes MONUSCO-FARDC en vue d'une célérité dans les opérations. Enfin, un volet humanitaire, 4 millions de dollars américains, c'est en tout cas le montant que le coordonnateur humanitaire des Nations Unies RDC, Dr Mamadou Diallo, vient d'allouer dans le cadre de la lutte contre le choléra le long du fleuve Congo. Cette somme du fonds humanitaire va servir à financer une assistance d'urgence aux populations victimes ou à risque de l'épidémie du choléra dans les provinces de l'Équateur, de la Tchopo, de la Mongala, du Maïndombe, du Maniema et de Kinshasa.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le MAGUN revient ce dimanche sur l'entretien que le sous-secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme a accordé le week-end dernier à Jean-Pierre Elali Coco. Monsieur Andrew Gilmour venait donc de boucler sa mission de travail en RDC et avait notamment, au cours de cette interview, exprimé son étonnement de constater que les autorités congolaises dénigraient et stigmatisaient les opposants et les manifestants. Suivez cet entretien.
Monsieur Andrew Gilmour, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes à la fin de votre visite de travail en RDC. Au cours de cette visite, vous vous êtes rendu notamment à Goma, où des acteurs de la société civile vous ont exprimé leurs craintes sur la tension, les troubles et les violations des droits de l'homme qui pourraient survenir le 19 décembre, qui marque la fin du mandat du président Joseph Kabila. Partagez-vous cette crainte ?
Je n'ai pas été simplement à Goma, j'étais aussi à Lubumbashi et ici à Kinshasa. Et je dirais oui. Je partage cette crainte. Je dirais aussi que même que la communauté internationale presque entière partage cette crainte. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est la raison pour laquelle le prince Zaïd, mon patron, le haut commissaire des droits de l'homme, m'a demandé de venir ici pour ma première visite officielle dans mes nouvelles capacités. En plus, c'est la raison pour laquelle le conseil de sécurité a envoyé une mission la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle on m'a demandé de briefer le Conseil des droits de l'homme à Genève dans 4 jours. Et c'est la raison pour laquelle, après ça, je serai à New York pour briefer le Conseil de sécurité encore une fois.
Que proposez-vous pour éviter les possibles violations des droits de l'homme dans le pays ?
Pour nous, c'est clair que tout le monde doit assumer leurs responsabilités relatives. D'abord, ceux qui organisent les manifestations devraient s'abstenir d'inciter à la violence. Et de la part des autorités, leur responsabilité est de créer un environnement où les Congolais peuvent exercer leurs droits encadrés dans la Constitution.
Puisque vous parlez justement de ces manifestations, le gouvernement provincial de Kinshasa, suite aux violences qui ont émaillé les manifestations du 19 et 20 septembre dernier, avait pris la décision d'interdire toute manifestation jusqu'à nouvel ordre. En réaction, beaucoup d'ONG et même les Nations Unies demandent la levée de cette interdiction. Votre avis à ce sujet ?
D'une longue carrière avec les Nations Unies dans des situations de crise, j'ai entendu des arguments sécuritaires pour interdire les manifestations et pour réprimer les droits fondamentaux. On comprend les responsabilités de maintenir la sécurité, bien sûr, mais pour nous, c'est jamais la solution, la vraie solution pour créer un meilleur environnement.
Donc il ne faut pas interdire les manifestations pacifiques, c'est ça ?
Au contraire, on encourage les autorités à de permettre les manifestations et la liberté de manifester. J'ai remarqué une tendance parmi les responsables congolais à dénigrer l'opposition entière et presque tous les manifestants comme des criminels, des voyous, on m'a dit, des violeurs, des drogués. Nous n'acceptons pas cette caractérisation. Cette semaine, j'ai rencontré des dizaines de représentants de la société civile à Lubumbashi. Lubumbashi, à Goma et à Kinshasa, des dizaines de défenseurs des droits de l'homme qui m'ont semblé être sincères, professionnels et respectables. Et plusieurs entre eux faisaient partie des manifestations en septembre et ont l'intention de manifester bientôt. J'ai été impressionné par leurs convictions et leur demande de respecter la Constitution.
En juillet dernier, le haut-commissaire Zed Hussein était en RDC. Il avait évoqué la même question des restrictions des libertés fondamentales, notamment. Vous, aujourd'hui, vous êtes en RDC, vous répétez la même chose. Cette succession de missions en RDC signifie-t-elle que le message envoyé aux autorités de la RDC ne produise pas les résultats attendus, c'est-à-dire que vos visites sont en quelque sorte un échec?
Non, je n'accepte pas que c'est un échec, mais je peux vous assurer qu'on va continuer à envoyer ces messages aux autorités de la RDC.
Ah, quel message précisément? Vous allez toujours continuer à envoyer des messages, mais on n'a pas de résultats concrets sur le terrain?
Le haut-commissaire des droits de l'homme a accompagné la population congolaise depuis 20 ans. Dans cette période, on a constaté une amélioration dans la situation des droits de l'homme. Mais il y a encore un long chemin à parcourir et des menaces à surmonter.
Au cours de votre visite, Monsieur Gilmour, vous avez eu des entretiens avec les présidents des deux chambres du Parlement. Qu'est-ce qui ressort de vos deux rendez-vous que vous avez eus?
Nous avons eu des entretiens très utiles avec les deux présidents du Parlement. Le thème, c'était l'importance de l'ouverture de l'espace démocratique. Et on a parlé de plusieurs éléments d'une ouverture potentielle. Parce que c'est la fermeture de cet espace démocratique qui est un vrai problème. Un problème pas simplement pour les droits de l'homme, mais pour la stabilité du pays, à notre avis. Un autre thème de discussion, c'était l'importance d'adopter une loi pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Et dans les deux réunions, on a vraiment discuté le potentiel d'avoir une telle loi.
Pour terminer, Monsieur Andréou Gilmour, un mot ou peut-être un message aux Congolais qui vous suivent en ce moment à la fin de votre mission.
Le bureau du haut-commissaire des droits de l'homme a accompagné la population congolaise depuis 20 ans. Dans cette période, on a constaté une amélioration dans la situation des droits de l'homme. Mais bien sûr, il y a encore un long chemin à parcourir et des grandes menaces à surmonter. Le message, c'est qu'on va continuer à rester à vos côtés afin de vigiler l'application pleine et effective de tous les droits fondamentaux consacrés dans votre Constitution. Nous sommes ensemble, nous allons rester ensemble.
Le message est bien compris et Monsieur Andréou, Radio Okapi vous dit merci.
C'est plaisir, c'était le mien. Merci.
Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, à travers son unité renforcement institutionnel et réforme, a accompagné du 28 au 30 novembre la semaine dernière la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, dans l'organisation d'un atelier sur le monitoring des lieux de détention et des manifestations publiques. Fernandez Mourola, membre de la CNDH au niveau national, motive ici la tenue de cet atelier et salue l'accompagnement du Bureau conjoint. Il parle de tout ça au micro d'Honoré Missenga Kalala.
En fait, c'est pour la deuxième fois que la Commission nationale des droits de l'homme organise cet atelier. Premièrement, on a organisé ça à l'intention des 10 coordonnateurs provinciaux de la Commission nationale des droits de l'homme. Et comme la Commission nationale des droits de l'homme a désormais 26 coordonnateurs provinciaux, il était important qu'on puisse organiser cette formation à l'intention de 16 autres coordonnateurs provinciaux en vue de renforcer leurs capacités opérationnelles en ce qui concerne la surveillance des lieux de détention ainsi que le monitoring des manifestations, aussi par l'observation des manifestations publiques. L'atelier a été animé essentiellement par les experts de la Commission nationale des droits de l'homme ainsi que les experts du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme. Sur le terrain, comme vous savez, la Commission nationale des droits de l'homme a un mandat très large, notamment la surveillance des manifestations publiques ainsi que les visites régulières des lieux de détention. Et donc, nos animateurs qui vont aller sur le terrain vont commencer à aller faire ce travail au quotidien. Vous savez, le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme travaille en partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau des différentes provinces, là où le bureau est implanté. C'est un partenaire de tout l'État. Donc, vous savez, les droits de l'homme sont un tout. On ne peut pas travailler en solo, on doit toujours travailler en synergie.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
quelle est la responsabilité du ACR dans la situation de Luhanga? Suivez plutôt cette question, suivie bien évidemment de la réponse de Florence Marchal et les coordinatrices du groupe de communication des Nations Unies en RDC.
Je suis Vivienne Zabari Gapo, le compte de la radio-télévision belge francophone, RTBF. C'est par rapport au mandat du ACR. Le ACR a le mandat de protéger les populations déplacées. Alors, je voudrais revenir par rapport à l'incident de Luanga. N'observez-vous pas que normalement le ACR n'a pas formellement joué son rôle? Est-ce que ces populations déplacées n'ont pas été peut-être exposées à cette chienli de ces maïmaï?
Oui, merci. Alors, par rapport à Luanga, une précision. Le site était un site spontané de déplacement où les déplacés sont installés. Il ne faisait donc pas partie des sites officiels qui sont gérés par la Commission nationale pour les réfugiés, la CNR, qui sont sous financement soit du Haut Commissariat aux réfugiés, soit de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Voilà ce qu'on pouvait répondre à votre question.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour à tous. Moi, c'est Hélène Devaux. Je travaille au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Je suis juriste de formation. J'ai fait des études de droit et ensuite une spécialisation en droits de l'homme, qui est le sujet qui m'intéresse le plus et qui est le sujet qui m'a amenée ici en RDC. Au sein du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, j'ai une double casquette. D'un côté, je suis l'assistante spéciale du directeur. Donc c'est un nom un petit peu barbare pour dire en fait que j'assiste le directeur du bureau dans tout ce qui est les questions substantielles de son travail. Et ensuite, ma deuxième casquette, c'est que je suis le point focal du bureau pour tout ce qui est en relation avec l'espace démocratique, c'est-à-dire donc toute la situation des libertés fondamentales, des droits civils et politiques dans ce contexte électoral que connaît la RDC. Ça va faire un peu plus de deux ans, pratiquement deux ans et demi que je suis dans le pays. Donc j'ai toujours travaillé avec le bureau conjoint, j'étais d'abord au bureau de terrain de Kinshasa, ensuite j'étais dans l'unité de reporting, c'est une unité qui s'occupe de faire tous les rapports que les auditeurs écoutent chaque mois, et donc maintenant le nouveau poste dont je vous ai déjà parlé. Mais bon, je passe pas tout mon temps à travailler, j'ai aussi du temps pour des activités en dehors du travail, notamment je cours beaucoup, j'aime beaucoup faire des courses. Donc j'avais fait par exemple l'année dernière avec la MONUSCO, on était allé à Kigali pour faire le marathon de la paix. J'espère que l'année prochaine on va faire la même chose. Et sinon bah, j'aime beaucoup voir des films, donc aller au cinéma et regarder des films. Mes préférences en musique, c'est vrai que j'aime beaucoup danser en fait, donc j'aime les musiques qui dansent. Donc j'aime beaucoup la salsa, mais aussi tout ce qui est la rumba congolaise. C'est vrai que j'aime beaucoup passer du temps à écouter les concerts des différents musiciens congolais. comme qui bah, par exemple, dimanche dernier, il y avait un concert de Rodrigo à la Messe de France. Donc ça, c'est dans les vivants, dans ceux qui sont décédés, malheureusement. Papa Wemba, bien sûr. Donc en matière de sport, j'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup courir. Et en nourriture, j'aime beaucoup le poisson. Et notamment les poissons du fleuve Congo. Le capitaine. Et puis voilà. après le BCNUDA, je ne sais pas encore exactement ce que j'aimerais faire. Parce que c'est vrai que c'est tellement passionnant d'être ici. La RDC est un pays tellement fascinant que pour le moment, je peux rester encore un petit peu et apprendre de la RDC et des Congolais. Moté la vino.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapu.
Prenez vos carnets et notez ces rendez-vous de la semaine, le 5 décembre. Nous vous rappelons en tout cas que c'est la journée internationale des volontaires. Et puis le 10 décembre, c'est la journée des droits de l'homme. Et pour les agences, ce mardi 6 décembre, le PNUD RDC procédera à la remise des prix du concours d'art. Ce sera donc à la Gombe à partir de 16h30, heure de Kinshasa. Et à Kinshasa, bien évidemment. Voilà, c'est la fin du magazine des Nations Unies. On vous dit merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Sylvain Matundou. Je suis Sina Salama, je vous l'ai présenté. Ce magazine a été supervisé par Martin Sebujangwe, à la coordination Jean-Pierre Lali Coco, au reportage et à la réalisation Noremi Singa Talala. Merci à vous tous d'avoir été des nôtres. On se dit à très bientôt sur la fréquence de la paix. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite des programmes sur Radio Capi.